Bonjour Yann Bezan.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du 6x4 depuis février 2020, en charge de l'organisation également du festival Les Trois Éléphants. Quand je vous avais rencontré en octobre 2020, déjà, le monde en général et la France en particulier étaient en pleine crise sanitaire. Vous m'aviez alors dit qu'une civilisation ne peut pas vivre sans culture, qu'il ne faut jamais se résigner, que la nature a horreur du vide. Depuis, ça va mieux, on recommence à écouter des concerts debout. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir comblé ce vide? Est-ce que vous exercez désormais votre métier dans des conditions redevenu complètement normal?
J'exerce mon métier, de là à dire que c'est dans des conditions normales, je n'irai pas encore jusque-là. C'est vrai que l'activité repart, ça, on est tous très heureux de ça. Je pense que d'ailleurs tout le monde repart boire des coups dans les bars, va assister à des spectacles, que ce soit au théâtre, dans les cafés ou au 6x4. Après, l'onde de choc du Covid, on n'est pas arrivé encore jusqu'au bout de ce choc et on verra ce que ça donnera dans les années à venir.
Mais c'est en bonne voie. Alors le festival des Trois Éléphants sera dans quelques jours le premier grand événement du territoire à retrouver ses publics après 2 ans d'absence. Même s'il y avait eu une formule en 2021, une formule un petit peu allégée, sans concert et avec des arts de rue. Au-delà de l'organisation, est-ce que cela vous met à vous et à votre équipe une pression supplémentaire?
Je dirais pas une pression, je dirais plus une envie, mais énorme d'organiser cet événement qui nous tient à cœur. On travaille d'ailleurs, ce qui débute aujourd'hui là, avec l'installation d'œuvres dans l'espace public sur la place du 11 novembre. Des œuvres de l'artiste Lilian Bourgeat qui seront à voir jusqu'au mois de juillet.
Donc pas de pression supplémentaire, mais une envie farouche et on vous comprend. Les voyages forment la jeunesse, vous en savez quelque chose Yann Bezan. L'histoire aussi forme la jeunesse. Pour celles et ceux qui l'ignorent ou qui ne s'en souviennent plus, le Festival des Trois Éléphants, il n'est pas né à Laval. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes étapes et le contexte de la création de ce festival?
En effet, le festival est né à La Celle et Château dans les fins des années 90. Ça faisait suite à l'organisation d'un son et lumière à La Celle et Château. L'association de l'ASDA s'est dit bah, on va organiser un événement festif mais qui ne repose pas uniquement sur nous, puisque son et lumière était principalement joué avec des bénévoles de l'association et du village de La Celle et Château. Donc l'organisation, c'était un peu un renouvellement, on va dire, générationnel aussi dans l'association. Donc voilà, un festival qui naît, qui mêle art de rue, décoration et musique à l'époque. Donc ça, cette formule n'a pas changé en arrivant à Laval, puisque c'est toujours un peu l'ADN du festival. Et puis, dans les années 2000, en 2000, 2007, 2008, il y a des tractations, on va dire, avec la mairie de Laval à l'époque, puisque il y avait le 6x4 qui était né à Entrame, des volontés d'activistes, on va dire, des musiques actuelles, qui avaient ouvert une salle de concert à Entrame, qui avait loué un corps de ferme, tout rénové à l'intérieur et qui négociait avec la ville pour que cette activité soit relocalisée sur Laval. Et il y a eu un accord qui a été trouvé avec le maire de l'époque, monsieur Daubert, sur okay, l'ouverture du 6x4 dans le lieu qu'on occupe actuellement, mais venu du festival Les Trois Éléphants sur la ville également. Donc voilà, ça a été 2008-2009, deux éditions qui ont été organisées à la Plaine d'Aventure, début juillet. Deux éditions très très compliquées, puisque à l'époque, en fait, excentrées, et puis on avait perdu un peu l'ADN d'origine, puisqu'il y avait l'art de rue était quand même moins présente sur ces deux éditions là. Et puis 2010, La municipalité de l'époque avait arrêté les U burlesques, qui étaient une manifestation d'art de rue à Laval, et devant une levée de boucliers et une volonté de l'association qui menait les trois éléphants de changer de site, en fait, il y a eu un rapprochement où finalement le festival est arrivé en cœur de ville, avec une programmation art de rue qui s'est déployée en parallèle de la programmation musique. Et du coup, voilà, la formule des trois éléphants telle qu'on la connaît à l'heure actuelle est née, avec un changement de date sur le mois de mai pour le positionner comme le premier événement d'importance de l'année sur le territoire mayennais, avec une ADN résolument urbaine, axée sur l'émergence artistique, que ce soit en termes de musique, mais aussi en termes d'art de rue, vraiment axée aussi sur la création originale. Donc on n'est pas là pour diffuser des produits manufacturés, mais bien pour mettre en valeur la nouvelle scène, les artistes un peu qui vont monter dans les années à venir, et puis une ADN très très familiale, tout public, avec une volonté d'inclusion au maximum.
Et ben, vous avez partiellement répondu à ma question suivante, puisque j'allais dire qu'effectivement une des particularités du festival, c'est de faire la part belle à la découverte, à l'émergence musicale. Il y a beaucoup d'artistes qui sont passés aux Trois Éléphants, qui ensuite embrassent une carrière nationale, voire internationale. Je me souviens avoir vu, je crois, en 2019, Clara Luciani, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors, il y a les considérations financières pour les têtes d'affiche, mais est-ce que cette prise de risque-là, vous l'assumez complètement de faire la part belle à l'émergence musicale ?
Oui, on l'assume, parce que c'est l'ADN même du projet que de... proposer des groupes, des artistes qui vont devenir, en fait, qui font les futurs hits pour les années à venir, qu'on écoutera en boucle sur nos playlists de plateformes de streaming, ou en CD ou en vinyle. Ça a été toujours... Quand c'était Jean-François Foulon qui était à la programmation du festival, c'était déjà une volonté, et c'est pas une orientation par défaut, parce que on ne pourrait pas s'offrir des têtes d'affiche. C'est un vrai projet artistique qui est développé par le festival. Et d'ailleurs, en termes de secteur professionnel, on est le festival après le Printemps de Bourges sur l'échiquier, on va dire, des tournées d'artistes. Les Trois Éléphants est une étape très très importante, parce que ça amène aussi un certain cachet pour les artistes que de passer à Laval. Et ça, je pense qu'il faut en prendre conscience. On est assez fiers de ça. Et puis, en fait, ça nous empêche pas non plus de programmer des artistes un peu plus connus. Là, cette année, on a Laylo qui passe, qui est quand même dans son style de musique, sur le rap, c'est quand même un artiste très très reconnu. Juliette Armanet, DC's, enfin voilà, c'est des noms qui sont quand même grand public, assez fédérateurs. Donc on n'a pas non plus une vocation à devenir élitiste. Par contre, on a soif de donner à voir de la découverte au public.
Et on salue votre belle intuition et celle de votre équipe de programmation. Alors, autre particularité du festival, vous voulez également un petit peu évoquer, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre. Vous alliez les musiques actuelles, les arts de la rue, l'art contemporain, et une nouveauté cette année, les plus-plus. C'est quoi les plus-plus ?
Ah, les plus-plus, alors, les plus-plus, c'est des projets, en fait, qu'on mène avec le tissu associatif local, puisque, en fait, on n'a pas envie que le... le festival soit un événement porté juste par quelques personnes, juste par une association. Donc on a vraiment envie d'emmener un peu tout un chacun autour de cet événement. Et donc ce sont des événements qui sont proposés par les associations, par les commerçants en marge du festival. Alors c'est pas, on n'est pas en train de constituer un off du festival, mais plutôt des propositions supplémentaires. Voilà, sur tout l'espace gratuit, le village, donc la promenade Anne d'Allègre, en fait, il y aura plein de propositions, que ce soit des animations, des jeux, de la musique. Il y aura aussi sur site le plus petit club du monde où les spectateurs pourront s'adonner à la danse dans un espace restreint et du coup très, très intimiste. Enfin voilà, l'idée c'est d'embarquer du monde avec nous dans la grande aventure des trois éléphants.
Et on ne va pas évidemment détailler toute la programmation de cette édition 2022. Je renvoie pour cela à votre site les3éléphants.com. Quelles sont les deux ou trois formations artistes que vous êtes particulièrement fiers d'accueillir cette année, il y a 2 ans ?
Si il y en avait que deux, ce serait simple. Après, s'il faut faire un choix, je dirais cette année, on a pris le parti de finir le festival en musique, puisque jusqu'à maintenant, la programmation musicale s'arrêtait le samedi soir et on laissait l'art de rue terminer le festival sur la journée du dimanche. Là, on a pris le parti de terminer au 6 par 4 l'édition avec une superbe affiche rock indé avec Squid, qui est un groupe anglais. Qui remet le rock anglais sur le devant de l'affiche, si tant est cette mouvance-là avait disparu. Mais oui, c'est un très très beau concert, Squid et Ranko qui vont terminer le festival. Donc ça, c'est une grosse grosse affiche, on est très très fiers d'accueillir ces artistes-là. Après, il y a une vraie volonté aussi du festival d'avoir une ouverture sur le monde et du coup de aussi donner à voir ce qui se passe sur les autres continents. Donc on a Lido Pimienta par exemple qui vient présenter sa musique et ça nous donne aussi à voir sur c'est quoi aujourd'hui la musique actuelle dans les autres continents. Donc vraiment cette volonté d'ouvrir les Lavalloises et les Lavallois sur le monde de la musique, donc là sur l'Amérique latine. Et puis après c'est participer à la vie de la cité, c'est un peu politique tout ça, c'est aussi mettre en avant des artistes féminines par exemple qui revendiquent une certaine liberté, une fierté d'être femme dans un monde qui des fois est pas très tendre à leur égard. Du coup, on peut citer l'artiste Mara qui, avec des propos des fois un peu choquants, un peu crus, démontre aussi que aujourd'hui la scène musicale voit éclore de nombreux artistes féminins qui ont beaucoup de qualités.
Deux piliers fondamentaux, j'imagine, pour réaliser le festival dans de bonnes conditions, les financeurs évidemment, le bénévolat. Sur ce dernier point du bénévolat, j'imagine qu'on s'y prend pas au dernier moment. Comment vous organisez tout au long de l'année ce partenariat avec elle et eux ?
Alors, le bénévolat, c'est une partie extrêmement importante de notre économie et de notre équilibre. Ce sont des femmes et des hommes sans qui on ne pourrait pas réaliser le festival. Donc déjà un grand merci à tous ceux qui s'investissent sur le festival. En gros, on commence dès le mois de janvier en fait à quand on pense le festival et qu'on l'a mis, on va dire, qu'on a mis les grandes lignes, la grande structure, on commence à remobiliser les personnes qui étaient investies les années précédentes, à faire les premières, les premières réunions de calage. Et puis, on a la chance d'avoir le lieu, le 6 par 4, qui accueille une équipe de bénévoles. Il y a environ 70 bénévoles actifs sur l'année. On s'appuie sur ces personnes-là. Et puis après, on fait un appel aux bénévoles à partir du mois de février-mars. Voilà, pour compléter notre équipe bénévole. C'est 400 personnes qui s'investissent sur le festival sur une période d'environ 15 jours. Alors, il y a des gens qui sont là sur quelques heures et puis d'autres qui sont là plus longtemps. Mais voilà, qui participent au montage, à l'exploitation, donc à la vie, on va dire, les jours J, les jours d'ouverture, et puis sur le démontage. Voilà, c'est un travail à l'année d'animation, d'entretien de liens, mais en même temps c'est un petit peu aussi le rôle d'une association et de ce qu'on veut défendre. On est là pour faire du lien social, que ce soit au travers de concerts, au travers d'actions culturelles dans les écoles, en prison ou ailleurs, et aussi auprès de nos bénévoles, de maintenir le lien. Et ça a pris vraiment son sens pendant le Covid aussi, quand tout le monde était un peu enfermé chez soi, d'avoir la communauté POC-POC qui s'active aussi, même s'il n'y avait pas de festival. Voilà, c'est une mission extrêmement importante. C'est pour ça que la vie associative, aujourd'hui et demain, est extrêmement importante.
Et je cite Alizé, 24 ans, qui est bénévole à l'espace Partenaire, qui décrit une ambiance au top, de très chouettes rencontres, l'intérêt de connaître l'envers du décor et des beaux moments de partage. N'hésitez pas à postuler pour de prochaines éditions sur bénévolat@les3éléphants.com. À propos de vos partenaires non institutionnels, pardon, Yann Bleuzan, qui viennent notamment proposer leurs services de restauration, de rafraîchissement aux festivaliers, est-ce qu'il y a un cahier des charges, une éthique particulière, par exemple produits locaux, artisanaux, fidélité au festival, ou alors vous lancez un appel d'offres et puis c'est au mieux disant?
Ah non, enfin, donc oui, alors il y a un cahier des charges qui en effet spécifie que les personnes qui viennent sur le festival doivent avoir un approvisionnement en produits biologiques ou à défaut en produits locaux. On essaye de relocaliser d'année en année de plus en plus les produits qui sont vendus sur site. On est très attaché au circuit court, ça c'est important. Et après, l'idée c'est aussi d'aller de réduire l'impact du festival sur l'environnement. Donc c'est aussi d'avoir de plus en plus de propositions non carnées. Donc il y en aura vraiment pour tous les goûts, hein, du végétarien, du vegan, mais aussi toujours des frites et des propositions avec de la viande. On veut, il n'y a pas de volonté d'être excluant, mais en tout cas oui, on fait vraiment attention à d'où viennent les produits.
J'évoquais à l'instant les financeurs, il y a parmi eux la ville de Laval et l'agglomération de Laval qui en font partie. Le festival a travaillé avec plusieurs majorités, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de couleurs politiques différentes. Dans quel climat vous travaillez aujourd'hui avec ces institutions? Est-ce que c'est une confiance parfaite et une carte blanche, ou alors il y a des demandes spécifiques venant de ces institutions?
On a la chance... Aujourd'hui, le festival est installé, il y a une confiance, il y a un contrat de confiance avec la municipalité, que ce soit sous la mandature précédente et sur celle-là, on n'a pas de demande particulière émanant de la ville concernant le festival. Donc on a une totale liberté artistique, on a une totale... liberté d'organisation, ils sont même facilitants par rapport à nos demandes. Là aujourd'hui par exemple, ce soir nous avons la première réunion riverain qui se passe, et on travaille vraiment main dans la main avec les services de la ville. Donc non, c'est plutôt un travail, on Je ne vais pas dire qu'on est en symbiose non plus, parce qu'il y a forcément des points où on n'est pas forcément d'accord, mais on travaille en bonne intelligence avec les élus, avec les services.
Parce qu'on peut compter sur le festival pour toujours oser surprendre ceux qui s'y aventurent. Ça, c'est une citation d'un de vos fidèles. Soyez nombreux donc du mercredi 18 au dimanche 22 prochain. Nous venons de parler de votre relation avec les institutions locales. À l'heure où nous enregistrons cette interview, nous ne connaissons pas encore le nom du futur président ou de la future présidente. S'ouvrira dans quelques jours, quelques semaines, la campagne des législatives. Quelle requête ou point de vigilance souhaiteriez-vous adresser au nom du secteur culturel aux candidats?
Pour les législatives, moi, il me semble, on voit bien que on a une société qui est de, alors je ne sais pas s'il faut parler de fracture dans la société, mais en tout cas avec des points de vue qui sont de plus en plus arrêtés, avec un déficit de débat. Et je crois que là où en fait les politiques n'ont pas été assez attentifs, c'est vraiment sur la vie associative. Et en fait, il faut bien comprendre que les associations sont le lien de débat, le lieu des débats, le lieu de construction, le lieu du vivre ensemble, et qu'il faut arrêter de malmener les associations, quelles qu'elles soient, et qu'on leur redonne une confiance qui n'est plus qui ne leur est plus donnée depuis plusieurs quinquennats. Là, je parle vraiment d'éducation populaire. Il faut vraiment que les associations jouent un rôle plus important dans la société, parce que c'est à mon sens la clé. À mon sens, la clé on va dire, d'un dialogue un peu plus apaisé les uns entre les autres. Et puis après, si je dois être un peu plus égoïste entre guillemets, la Mayenne, aujourd'hui, on entend que on a un territoire qui est en plein emploi. Oui, mais en fait, les entreprises ont du mal à embaucher. Oui, mais en fait, la place des services publics, et notamment le service public de la culture, on a du mal aujourd'hui à travailler dans notre 6 par 4 parce que le lieu devient vétuste. Et là, j'en appelle vraiment aux futurs élus pour qu'on puisse travailler dans de meilleures conditions dans les années à venir.
Un dossier en cours et on viendra vers vous à cette occasion, Yann Buzan. Dernière question. Vous le savez, il y a chez tous les journalistes une forme de névrose du scoop. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée et qui m'aurait permis d'en décrocher un?
Bah, où va se trouver le futur 6 par 4?
Et votre réponse serait?
Serait dans le centre-ville.
Une très belle édition, 25e édition hein, des Trois éléphants, donc c'est entre le 18 et le 22 mai. Merci Yann Bezan.
Merci à vous.